Nous nous entretenons aujourd'hui avec Jean-Hervé Fralin, qui est conseiller des Français de l'étranger à Madagascar et conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger pour l'Afrique centrale, australe, orientale et l'océan Indien. Alors Jean-Hervé, quelle a été la situation à Madagascar durant la première vague de la COVID et quel fut votre rôle en tant qu'élu de terrain?
Bonjour Hélène et bonjour à tous nos amis. Merci de me donner cette opportunité de parler des Français de Madagascar et des difficultés qu'ils ont rencontrées pendant cette période. Madagascar, nous avions craint le pire et il n'est pas arrivé. Donc on peut se réjouir du fait que cette première vague de l'épidémie Covid, et pour l'instant on n'a pas de deuxième vague à Madagascar, a été moins violente et moins grave que ce que nous avions craint. Les premiers cas confirmés par des tests PCR sont apparus au mois de mars. Très rapidement, les autorités ont fermé les frontières et restreint les voyages, ce qui fait que les cas importés dans les villes qui avaient reçu des voyageurs ne se sont diffusés que lentement. Il y a eu quelques foyers de contamination à la capitale et dans la deuxième ville du pays, Tamatave, qui a été fortement touchée au début. Mais on n'a pas eu une hécatombe et on recense à peu près 17 000 cas confirmés actuellement, sur lesquels 240 décès environ ont été enregistrés, parmi lesquels une quinzaine de Français, à ma connaissance. Quelques Français ont également bénéficié d'évacuations sanitaires vers La Réunion, où ils ont pu être soignés. Ça a parfois été difficile d'obtenir les autorisations pour les évacuations sanitaires. Mais globalement, l'épidémie à Madagascar a été moindre que prévu. On peut mettre ça sur le compte de la jeunesse de la population, d'un système immunitaire peut-être plus éprouvé qu'ailleurs, et certains attribuent aussi à l'usage de plantes utilisées à Madagascar, qui ont été développées, usage qui s'est développé à cette occasion, une protection particulière. Voilà ce que je peux vous dire sur l'épidémie à Madagascar. Et on a quand même quelques Français qui sont décédés et je souhaite leur rendre hommage. J'en connais parmi mes proches amis à la capitale et dans des villes de province. Et bien sûr, c'est très difficile pour les familles qui ont été affectées. Le rôle des conseillers consulaires pendant cette période a d'abord été un rôle d'information et un rôle consultatif auprès de l'ambassade et du consulat pour faire remonter les préoccupations. Ça a relativement bien fonctionné en termes de consultation dans une première période. Ça s'est ensuite un peu distendu. En termes d'information, nous avons été un peu des points de repère. Les Français de Madagascar qui nous connaissent, consultant les réseaux sociaux, notre page Facebook, envoyant beaucoup de messages électroniques, nous téléphonant parfois, venant à nos permanences, interrogeant nos correspondants dans les villes de province. Donc, on a joué un rôle très actif qui, pendant les premiers mois, a compensé la faiblesse de la communication de l'administration consulaire qui n'utilisait que le site officiel de l'ambassade pour informer les Français. Tout le monde n'y a pas accès. Tout le monde ne pense pas à y aller et on n'a pas forcément les réponses aux questions précises qu'on se pose. Le rôle aussi des conseillers consulaires a été de susciter des élans de solidarité d'entraide entre Français en venant en appui aux associations de solidarité, d'entraide, de bienfaisance qui existent, qu'on appelle les OLES de manière générique. Et avec mes collègues, je leur ai proposé de lancer une collecte de fonds auprès des Français de Madagascar ou d'ailleurs. On a mobilisé environ 25 millions d'ariars, ce qui représente un peu plus de 4 000 euros, et ce qui a permis aux OLES de démarrer de manière souple un soutien aux familles qui en avaient le plus besoin, en attendant que se mette en place progressivement, péniblement parfois, le dispositif d'aide consulaire dont certains ont pu bénéficier ensuite. Donc les OLES ont été très actives. Et je voudrais aussi saluer en particulier ma collègue Geneviève Farajala à Tamatave, qui a joué un très grand rôle dans cette ville, puisqu'elle a aidé des Français, au début en l'absence d'un consul honoraire qui n'était pas sur place à ce moment-là, d'abord à s'informer, mais aussi à organiser des convois, à obtenir des laissez-passer pour qu'ils puissent rejoindre la capitale. Voilà, en quelques mots, les rôles principaux que nous avons pu jouer pendant cette période où nous avons été très sollicités, beaucoup plus que d'habitude. Et je dois vous dire qu'on y a passé des dizaines d'heures chaque semaine.
Et comment évaluez-vous l'implication et l'efficacité de la présence française sur place durant ces mois de pandémie?
Alors, si on parle de l'administration consulaire et diplomatique, son rôle, je dirais, l'appréciation va être différenciée selon les sujets et les publics ou les préoccupations traitées. Je crois qu'elle a été principalement mobilisée pour venir en aide aux Français de passage afin de les aider à regagner la France, ce qui a été fait dans des grandes proportions, hein. Il y a eu un grand nombre de vols de retour en France, qu'on appelle parfois improprement de rapatriement, qui ont été organisés. Quand ce flux des touristes, disons, ou des gens de passage a été pour l'essentiel tari, l'attention s'étant alors enfin portée sur les Français résidents. Certes, ceux qui étaient vulnérables ou qui avaient des problèmes médicaux avaient été pris en compte par le service social et médical, surtout de l'ambassade de France, qui a eu une très belle action. Et là, je voudrais saluer les médecins. Ils sont trois à avoir travaillé sur le sujet. Et puis toute l'équipe médicale autour, qui ont généralement fourni les réponses attendues par les gens dans des délais relativement courts. En revanche, quand les gens cherchaient à voir les services habituels du consulat, eh bien, ils avaient beaucoup de mal à savoir si c'était fermé ou pas fermé. Ils appelaient un numéro unique qui était pratiquement saturé en permanence pendant les trois premiers mois. Et les messages électroniques recevaient des réponses automatiques qui les renvoyaient vers une autre adresse électronique auquel parfois on leur envoyait de nouveau un message. Donc il y a eu une espèce d'incompréhension, une frustration qui n'a été levée qu'après 4 mois ou 5 mois quand le premier message circulaire a été envoyé aux adresses électroniques des gens qui sont inscrits au registre sur la liste électorale consulaire avec une adresse électronique. Et puis, finalement, ça s'est remis en place petit à petit avec un accès qui demeure restreint et dont les modalités ou les conditions d'accès ne sont pas toujours très précises. Les agences consulaires en province, pour certaines, restent fermées depuis 7 mois. Et donc, toutes les missions consulaires qui avaient été prévues en province pour faire des documents d'identité principalement ont été annulées. Bien sûr, on comprend que l'administration cherche à d'abord concentrer ses effectifs sur ses priorités en période de crise et protéger aussi son personnel en limitant les accès et en limitant les déplacements. Mais là, on est arrivé à un point d'affaiblissement du service public aux Français de Madagascar qui est préoccupant et handicapant pour beaucoup de gens.
Ouais. Alors, vous avez récemment rédigé une tribune sur Facebook concernant les aides sociales spéciales Covid. Où en sommes-nous actuellement à Madagascar?
Alors, je peux vous faire un point estimé à partir des informations que j'ai reçues du service social du consulat, hein, qui depuis le mois de septembre, je dirais, a amélioré significativement son écoute, son accueil et le traitement des demandes qui lui sont adressées. Pendant les 5 premiers mois de l'épidémie, c'était très difficile pour les Français d'obtenir une aide quelconque des services consulaires et du service social en particulier. Les gens étaient renvoyés systématiquement sur les associations d'entraide, les OLES. On a eu, d'après les chiffres que j'ai, 1700 Français environ qui se sont adressés au consulat pour se signaler ou signaler une difficulté particulière, dont 1500 ont exprimé une demande d'aide financière, et sur ces 1500, 200 seulement auraient été servis pour un montant total de 24 000 euros, ce qui représente 120 euros en moyenne par famille aidée, ce qui n'est pas beaucoup. Alors, ça s'explique par deux choses. D'une part, par la définition très restrictive du montant de l'aide dite secours occasionnel de solidarité ou SOS, attribué par l'administration consulaire, qui est pondéré non pas par l'indice du pouvoir d'achat Mercer, comme on pourrait s'y attendre, qui est utilisé pour les bourses scolaires ou pour les indemnités dans le système administratif, mais qui a été calé sur une référence d'allocation mensuelle maximale, ce qu'on appelle le taux de base, versé par le consulat Madagascar, qui est de 168 euros habituellement. Et par un calcul savant, ce montant a été fixé au plafond de 60 euros par mois et pour un foyer, plus 40 euros par enfant. Et au départ, c'était une seule fois, une fois pour toutes, pour solde de tout compte. Donc, il a fallu de multiples interventions des élus, des élus consulaires de Madagascar et d'autres pays du monde. Hein, nous sommes nombreux à être intervenus. Les parlementaires ont relayé notre action et je crois que nous avons eu une bonne écoute au niveau gouvernemental, ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État chargé des Français et des étrangers, avec une enveloppe budgétaire de 50 millions d'euros qui a été attribuée pour les Français et les étrangers dans le monde entier, et dont je crains que ce dispositif de distribution par l'administration consulaire va nous conduire à constater qu'elle sera très fortement sous-utilisée. Alors déjà, par le mécanisme de cette attribution du secours occasionnel de solidarité que je viens de décrire, qui au départ exigeait de faire la preuve qu'on avait épuisé ses ressources personnelles, épuisé les recours possibles à la famille, aux amis, aux emprunts bancaires, et en gros qu'on ait vendu ses meubles et qu'on soit à la rue pour pouvoir bénéficier de 60 euros, ce qui permet à peine de manger pendant un mois. Donc c'était quand même hallucinant. Ça s'est un petit peu assoupli dans la mesure où maintenant on peut bénéficier de ce secours jusqu'à 4 mois consécutifs pour les gens qui en bénéficient. Mais ça reste très faible. Et par rapport au budget qui a été voté, je pense qu'on aurait pu d'abord utiliser un mode de calcul moins défavorable, et celui de l'indice du pouvoir d'achat qui est utilisé pour les bourses scolaires me semble bien plus adapté, et d'autre part, être moins restrictif sur les conditions d'accès. J'entends encore aujourd'hui des gens qui ont perdu leur emploi, qui sont au chômage, donc dont le revenu s'est fortement dégradé ou complètement disparu. Mais on leur dit, si vous avez des réserves avec de l'argent sur un compte bancaire, vous n'êtes pas éligible à cette aide sociale. C'est une interprétation qui ne correspond pas, me semble-t-il, à l'esprit dans lequel la décision politique de soutenir les Français et l'étranger a été prise. Donc ça me semble être une pratique plutôt restrictive de l'administration. Voilà ce que j'ai dit depuis longtemps et ce que j'ai écrit sur la page Facebook. Et je note une amélioration, un assouplissement, parce que je crois qu'on est passé d'une trentaine de secours versés jusqu'à la fin août à 200 maintenant, donc c'est-à-dire 170 dans les 7 dernières semaines, contre 30 dans les 6 mois qui ont précédé. Donc on voit bien que ça s'est assoupli et que le service social a pris en compte de manière plus active et effective les orientations qui lui étaient données par le gouvernement, mais ça reste encore insuffisant et inadapté à mes yeux.
Et qu'en est-il des aides disponibles aux entreprises tenues par des Français de Madagascar ?
Les aides aux entreprises, d'abord, l'administration nous a expliqué dès le départ que les entreprises de droit local possédées ou dirigées par des Français n'étaient pas éligibles à des aides publiques françaises, mais seulement à des dispositifs locaux de l'aide que le gouvernement de Madagascar apporte à ses entrepreneurs. Ici, vous vous en doutez, dans un pays pauvre, ces aides sont relativement faibles. Hein. Elles consistent en report de charges pour l'essentiel et suspension de paiement d'obligations fiscales. Mais il n'y a pas d'aide directe aux entreprises, si ce n'est quelques emprunts bancaires qui ont pu être octroyés à des conditions plus favorables, dont certains entrepreneurs de nationalité française gérant des sociétés de droit malgache ont pu bénéficier. Mais on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, constaté la mise en œuvre d'un dispositif d'aide spécifique aux petits entrepreneurs français de Madagascar. Ce qu'on constate, c'est que les grandes sociétés, dont le siège social ou la holding est en France, peuvent bénéficier des dispositifs du soutien du gouvernement français aux entreprises françaises, y compris pour leurs filiales à l'étranger, en direct ou au travers BPI France, mais que pour les petits entrepreneurs français de Madagascar, notamment dans le secteur du tourisme, très lourdement affecté ici, qui concerne des centaines d'entrepreneurs français, les hôteliers, les restaurateurs, les guides, ceux qui organisent des sorties, des circuits de pêche, de plongée, du trekking, bien, tous ces gens sont très, très fortement affectés. Pour certains, ils ont zéro activité depuis plus de 7 mois. Le tourisme intérieur est très faible pour des raisons de pouvoir d'achat, de restrictions de circulation, et ils ne reçoivent pas d'aide. Donc, pour certains, ils sont à l'arrêt complet. Ils ont fermé leurs entreprises, suspendu, mis en veille. Certains sont même repartis en France en espérant peut-être revenir à des jours meilleurs qu'on attend pour 2021, si tout va bien, 2022 peut-être. Et c'est donc très difficile. Et le fait de ne pas soutenir ces gens Ça me semble pas forcément un bon calcul sur le plan à la fois économique, budgétaire français et sur le plan de la présence et du rayonnement de la France à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand ils partent avec leur famille en France, ils arrivent, ils n'ont pas grand-chose, ils sont déracinés. Pour certains, la partie malgache de la famille est même en difficulté culturelle. Et ils vont devoir être aidés par nos services sociaux, les caisses d'allocations familiales, pour la scolarisation de leurs enfants. Et on peut faire le calcul assez facilement. Ils vont coûter 1 000, 1 500, 2 000 euros par mois d'aide sociale si la famille est nombreuse, avec les allocations familiales, la scolarisation en France, etc. Alors que s'ils étaient restés à Madagascar, même avec des bourses scolaires et une aide sociale un peu plus conséquente, c'est quelques centaines d'euros par mois, 200, 300 euros par mois, 400 euros maximum que coûterait une telle famille, qui lui permettrait de se maintenir jusqu'au moment où elle peut s'adapter avec une nouvelle activité, se reconvertir ou redémarrer son activité. Dans certains secteurs, les choses peuvent redémarrer. Dans les prestations de services, dans le transport, ça redémarre doucement. Et dans le tourisme, on espère que ça redémarrera en 2021. Donc ça, c'est l'aspect économique. Puis l'aspect rayonnement, eh bien, c'est, on se prive de la présence et du rayonnement de Français qui étaient bien établis ici, qui étaient reconnus et qui se sentent tout d'un coup un peu oubliés, abandonnés, et que le seul moyen pour eux de recevoir une aide de leur État, c'est de revenir sur le territoire national. Et je crois que là, il y a une réflexion à conduire pour que des dispositifs d'aide puissent être mieux adaptés. On nous annonce la possibilité d'une garantie ARIS, donc de Proparco, groupe AFD, pour les emprunts souscrits aux banques locales. Mais pour l'instant, les modalités de mise en œuvre et la diffusion de cette information restent inconnues.
D'accord. La 33e session de l'Assemblée des Français de l'étranger vient de se tenir début octobre à Paris, sous format hybride. Comment évaluez-vous cette session atypique?
Oui, c'est une session atypique, en effet. En premier lieu, je trouve heureux qu'elle ait pu être organisée et je félicite le bureau de notre Assemblée des Français de l'étranger et l'administration, son secrétariat général, d'avoir réussi à l'organiser. Nous étions une trentaine de présents et plus de 50 conseillers à distance ont participé. Donc, je crois qu'on était 85 sur 90 à avoir participé aux travaux de cette assemblée. C'était quand même très difficile, le travail en commission avec un système audio qui ne fonctionnait pas toujours très bien. Bon, on a, je dirais, travaillé quand même. On a tenu les auditions qui étaient prévues, parfois dans des conditions un peu acrobatiques. Et je crois que c'était très utile que les représentants élus de terrain, la représentation non parlementaire, comme on dit, des Français d'étranger, puissent se concerter et exprimer les préoccupations qui sont les nôtres, différentes bien sûr d'une région du monde à l'autre. Et j'ai trouvé qu'il y avait des contributions intéressantes, des commissions de la sécurité, de l'enseignement, des affaires sociales notamment, des lois et du budget aussi bien sûr, du commerce extérieur avec les préoccupations des petites entreprises et du développement durable, et le dialogue qui s'est rétabli puisqu'il avait été suspendu en direct pendant plusieurs mois avec les parlementaires et avec le gouvernement à travers notre secrétaire d'État ou chargé des Français à l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne, dont l'intervention a été très appréciée et qui se montre ouvert et disponible pour discuter avec les élus. Bien tout ça, ça a été utile, même si ça a été plus difficile et un peu frustrant parfois.
Oui. Le mot de la fin, Jean-Hervé Fralin?
Ben écoutez, voilà, ça a été une période éprouvante pour les élus, mais finalement, malgré la fatigue, malgré les tensions, une période qui donne pleinement son sens au mandat de conseiller de proximité que nous sommes et que les 440 élus dans le monde entier le vivent d'une manière différente, certainement. Mais moi, je dois dire que j'ai pris du plaisir à pouvoir rendre. Et certains expriment leur connaissance, ça nous fait du bien. Et ça montre que cette fonction d'élu de proximité en période de crise est très élue, très utile, et qu'elle est complémentaire de celle de l'administration. Donc finalement, on peut souhaiter qu'à l'avenir, on tire les leçons de cette crise pour trouver des modalités de collaboration plus fluides avec nos administrations, pour que les postes diplomatiques et consulaires puisse inclure davantage les élus dans le dispositif, parce qu'on voit bien que c'est par là que la communication et les explications se passent le mieux. Voilà, et pour donner une petite anecdote, avec mon équipe qui comprend un grand nombre de personnes binationales, malgaches et françaises, j'avais pris l'habitude d'aider les gens à comprendre les interventions du gouvernement et de l'administration malgache en essayant de traduire pratiquement en direct les allocutions, du président de la République ou du Premier ministre ou de ministres qui ont eu lieu chaque quinzaine à peu près. Et c'est une activité utile pour des Français qui vivent à Madagascar, pour certains depuis peu de temps, depuis plus longtemps, mais qui ont parfois du mal à comprendre les expressions publiques en langue malgache. Et c'est un point dont j'ai observé qu'il avait été très apprécié parmi d'autres. Il y a beaucoup de choses comme ça qui pourraient être encore améliorées pour que nous puissions mieux communiquer, rassurer, aider, venir au secours parfois quand c'est nécessaire de nos compatriotes. Un dernier point, si vous permettez, on a une situation particulière à Madagascar. Vous savez, on est très loin de la France, à 10 000 km, mais en même temps très près, puisqu'on est entre deux départements français, Mayotte et La Réunion. Et Madagascar, c'est un pays où les capacités hospitalières et médicales sont faibles, donc beaucoup de Français, dont je suis, comptent sur la proximité d'un département français avec des équipements médicaux aux normes européennes pour pouvoir se faire soigner quand c'est nécessaire. Et cette difficulté que nous avons eue à pouvoir regagner le territoire français dans son point le plus proche de chez nous, qui est le département de La Réunion, ou Mayotte pour ceux qui sont dans le nord-ouest de Madagascar, a beaucoup indigné certains qui ne comprennent pas pourquoi un préfet ou un directeur d'hôpital peuvent à certains moments interdire à des Français de rejoindre le territoire national pour se faire soigner, alors que l'hôpital de Saint-Denis de La Réunion a pour mission d'être l'établissement de soins hospitaliers de recours, de dernier recours pour les Français de la zone sud-ouest de l'océan Indien. Il a été doté d'équipements et de budgets supplémentaires pour ça. C'est un point qui n'a pas clairement été traité par nos administrations. On a le sentiment qu'une position restrictive du préfet a été imposée et que notre administration diplomatique et consulaire n'a pas su trouver de moyen de convaincre et finalement nous dit si vous avez une difficulté, il faut peut-être envisager d'aller vous faire soigner à Paris, ce qui est toujours compliqué, soit en vol de rapatriement sanitaire, techniquement ça peut être très difficile s'il y a un besoin d'oxygénation pendant le transport ou d'isolement avec un malade contagieux. Et puis, parfois, l'urgence ne permet pas de faire un si long voyage. On est à 2 heures porte-à-porte d'un hôpital de La Réunion et 12 heures pour Paris. Donc, c'est un point qui reste à traiter et sur lequel j'ai un plénière de la Sénat français étranger, notre secrétaire d'État. J'avais déjà eu un échange avec lui à ce sujet et c'est un point sur lequel nous ne devons pas renoncer. Nous devons trouver les moyens que les Français de Madagascar, qui sont des Français à part entière, puissent accéder sans difficulté au territoire français, où que ce soit, et notamment quand ils ont besoin de se faire soigner, c'est une évidence.
D'accord, nous en reparlerons. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Hervé Fralin.